Oui, alors je vais redire un peu la conclusion pour se remettre dans le truc, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire Donc la conclusion, oui, donc si on commence à réfléchir à ce problème de territoire, de partage de l'espace, etc., bon, on est obligé de remettre en cause le système de fonctionnement des humains, le fonctionnement des animaux entre eux. Donc on est obligé de réfléchir à ce que c'est que la nature, à revoir l'écologie finalement, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça peut changer ou pas, etc. Donc ça implique beaucoup de remise en cause, de travail scientifique, d'observation, d'expérimentation, dans différents domaines. Et donc c'est un vaste sujet qui concerne quand même toute l'humanité, les animaux, et qui peut pas, pour que ça soit vraiment vécu, ça ne peut pas vraiment se faire à petite échelle, parce que c'est quand on parle d'écosystèmes, de micronations, bon, on ne peut pas le faire si on a simplement un terrain de quelques hectares comme ça, au milieu du reste, c'est très difficile, quoi. Et voilà. Et sinon, justement, dans les choses qui pourraient peut-être se faire à petite échelle, à grande guise d'expérimentation, on pourrait réfléchir effectivement à des systèmes de nourrissage, d'abri, d'observation des animaux, de communication avec eux. Donc les expériences, par exemple, de communication avec les singes, c'est très bien, parce que là, c'est plus facile aussi, mais avec d'autres animaux, avec la télépathie, ou je sais pas, j'avais un reportage là-dessus qui paraissait très clair. Je pense que si on arrivait davantage à communiquer avec les animaux, on y verrait déjà, ça irait déjà beaucoup mieux, parce qu'on connaîtrait davantage leurs souhaits, parce que là, ils l'exprimeraient directement, donc ce serait déjà mieux. Et puis, pour la connaissance de la nature, pour comprendre différentes choses, ça pourrait aller très très loin, parce que là, à l'heure actuelle, on sait finalement très peu de choses. Mais bon, alors à petite échelle, déjà, ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Bon, après, il y a aussi la question, donc, je disais, l'expérimentation par rapport à l'agriculture, réfléchir à tout ça, les problèmes de aussi par rapport aux plantes, ce que c'est que les mauvaises herbes, les parasites, les animaux qui mangent les cultures. Et même dans les constructions, déjà, on pourrait faire des choses. Bon, il y a des choses déjà qui ont été faites, hein, des gens qui ont fait déjà des maisons, à la limite, spécifiquement pour les animaux, des maisons humaines qui seraient beaucoup plus ouvertes avec... possibilités de proximité vis-à-vis des animaux avec des aménagements, de la verdure, enfin différentes choses. Et voilà. Oui, bon, en gros, vraiment, on va dire que c'est fini. Enfin, je sais pas si ça a été très clair, donc en plus avec les interruptions. Enfin, bon, il y aura beaucoup de choses à dire, après on peut partir dans différentes directions. Hein, je sais pas. Ouais, ça dépend aussi de la façon dont on conçoit le monde, quoi, parce que dans mon idée, bon, il y a une notion quand même de structure, de sens, de vision spirituelle aussi, on va dire, et qui fait qu'il y a, il y a des choses à faire qui ne sont pas, contraignantes, qui sont pas, on est libre de le faire ou pas, mais je veux dire, on n'est pas simplement, les animaux non plus, on n'est pas simplement sur Terre pour le confort et pour jouir de la vie tranquillement et en faisant quand même des choses, mais disons sans objectif de d'évolution, d'aller plus loin, de compréhension profonde de tout ce qui nous entoure, quoi, voilà. Et voilà, donc à vous la parole.
Donc c'est-à-dire que moi, ce que je demande par rapport à ça, c'est que c'est vrai que dans les civilisations dites modernes, les gens souvent on remarque malheureusement que la pensée, elle est très dirigée par les médias, par toutes sortes de choses, et que les gens regardent très peu les choses par eux-mêmes, et on dit que simplement 10% de notre cerveau est utilisé, qu'il y a une ouverture à faire, et que c'est vrai que sur une nouvelle qui est plus grande, et qu'on remarquait plus quand on est dans la nature ce qui se passe, on pourrait peut-être mieux comprendre d'autres phénomènes, en voir que nous n'en voyons pas. Enfin, je ne vais pas parler de phénomènes de psychologie, c'est bien quelque chose, mais que je découvre tous les jours, c'est quand même drôle. j'aurais dû comprendre ça il y a longtemps, je le comprendre maintenant. C'est-à-dire être quand même ouvert au fait que ce n'est pas simplement ce que nous disent les médias tous les jours, que la vérité est vraie, que ce qu'on trouve dit que la vérité est vraie. On a aussi, nous, un regard propre à ajouter sur le monde, et que ce regard propre, ben, par exemple, moi je sais que quand j'aimerais bien en effet avoir une relation avec les animaux, essayer de comprendre ce qui se passe en eux, et je verrais bien chacun, par exemple, moi je voudrais essayer de comprendre une espèce, quelqu'un d'autre, une espèce, etc. Pour, parce qu'il n'y a peut-être pas un langage, je crois qu'on dit le langage des animaux, puisqu'il y a des langages des animaux. Donc je trouve que ça serait bien qu'on essaie en effet de les comprendre, au lieu de dire qu'on est, et nous on est intelligent comme les gens. Je suis contre la pensée formatrice.
Qui est-ce qui prend les tours de parole?
J'ai bien fait.
Oui, je crois que le sujet est extrêmement vaste et deviendra, j'espère, important en pratique dans un avenir plus rapproché possible. Je pense qu'aujourd'hui, la question pratique des animaux élevés pour être tué, c'est ce qui masque tout un tas d'autres problèmes qui sont vraiment pas faciles à résoudre et qui dépendent aussi de l'éthique à laquelle on adhère. C'est-à-dire que si on adhère à une éthique du droit des animaux, ce sera peut-être différent. L'approche qu'on aura, on aura peut-être une approche, je pense, plus laissée faire que si on adhère à une éthique utilitariste, et puis d'autres points de vue éthiques évidemment peuvent entrer en jeu. Je pense aussi que, comme tu as dit, je crois qu'on a besoin aussi de beaucoup de connaissances qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi personnellement, je pense que beaucoup de problèmes, enfin moi qui adhère à une éthique utilitariste, je pense que beaucoup de problèmes ne peuvent pas être résolus dans l'état actuel de notre connaissance et même de notre philosophie. L'éthique utilitariste dit qu'on doit agir pour maximiser le total de bonheur relativement au total de malheur, enfin maximiser la différence, quoi. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le malheur? Est-ce que le bonheur d'un ver de terre, comment ça se mesure? Je pense que tous ces problèmes-là aujourd'hui ne peuvent pas être résolus. On n'a pas les outils ni scientifiques ni philosophiques pour les résoudre. Et la conclusion on arrivera à les résoudre, ce que j'espère un jour, la conclusion, ça pourrait être des choses extrêmement diverses. Ça pourrait être il faut faire disparaître l'espèce humaine au profit des animaux, ou ça pourrait être au contraire, que tous les autres animaux devraient les faire disparaître. Peut-être qu'on découvrira que d'autres espèces... qu'une autre espèce sera la plus capable de bonheur, je sais pas, les dauphins, les gorilles, les abeilles, ou je sais pas quoi, donc ça devrait être elle qui ait le monopole sur la Terre. Enfin, je pense que beaucoup de questions qu'on peut se poser aujourd'hui ne peuvent pas avoir de réponse bien claire aujourd'hui, ce qui n'empêche pas d'y réfléchir, enfin d'essayer de cerner certains des problèmes. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que par moment, j'ai pensé aussi en parlant de propriété, etc., à une théorie que moi j'aime bien, que j'avais entendue dans un club qui s'appelait sciences transversales et culture qui faisait partie du monde diplomatique et de Carmenan notamment. Et on parlait, à un moment donné, on a eu des discussions sur ce qu'on appelle l'économie distributive. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est quelqu'un qui s'appelle Dubois, qui était très connu dans les années d'avant-guerre et qui avait fait des calculs qui ont été refaits. Une fois, j'ai entendu sur Radio Libertaire que s'il n'y avait pas un certain nombre de, peut-être, de bureaucratie ou de ceci, avec les revenus, enfin les revenus qu'on appelle le PIB, donc chacun pourrait gagner, j'ai même entendu, tout au moins recevoir jusqu'à 15 000, je ne sais pas combien c'était en euros, mais 15 000 francs par mois sans travailler s'il y avait cette économie redistributive. Et on en parlait, il y avait Carmograin, il y avait Patrick Livret qui était inspecteur des finances à la Cour des comptes, qui est très connu, qui s'est dit maintenant philosophe, il y avait un tas de gens qui avaient beaucoup de pouvoir. Il y avait aussi René Passet qui était président d'ATAC. Et on se parlait comme ça vraiment de personne à personne, c'était merveilleux, tout le monde pouvait venir. Et ça avait l'air d'être une chose qui était facile à expliquer, mais bizarrement, moi quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du point et ses théories, ses principes, alors que justement la directrice aussi des réseaux de chambre de savoir, c'est quand même, il y en a dans toutes les villes de France, elle est très aussi pas connue un petit peu partout, elle connaît aussi très bien cette théorie, il y a ça de gens qui la connaissent et puis il y a beaucoup encore plus qui malheureusement la connaissent pas, mais c'était vraiment une solution simple et facile, sauf que bien sûr il y aurait eu au point de vue humain, au point de vue des grandes, des grandes entreprises, justement du capital mondialiste, beaucoup de problèmes, mais déjà les gens ne connaissent pas, s'ils le connaissaient, parce qu'on serait très pas sûr. Et justement, Patrick Dugré avait cette expression, peut-être que les gens de l'OMC sont très puissants, beaucoup d'argent, mais nous, les citoyens, nous sommes très nombreux. Et malheureusement, nous sommes très nombreux, mais la plupart ont les oreilles touchées, les yeux fermés.
Oui, une partie que tu as abordée, qui nous intéresse à nous très, très directement, hein, puisque bon, pour ceux qui ont assisté hier à l'exposé, à la présentation de la Fondation Gabriel, je veux dire par là, qui est axé sur la communication avec le règne animal, mais il n'y a pas qu'avec le règne animal. Donc on vous a relaté hier quelques expériences concrètes, et c'est des expériences qui se font au jour le jour, par l'équipe qui est sur place, qui non seulement, puisqu'il y a deux structures, il y a la patrie des animaux sauvages, donc il y a donc des terrains qui sont achetés ou l'espace vital donc des animaux s'agrandit au fur et à mesure. Et puis il y a la ferme des animaux où il y a on en arrive à 200 maintenant, animaux en grande partie domestiques qui ont été maltraités, abandonnés et donc récupérés. Et ce que nous constatons, c'est que sur cette base d'expérience, effectivement, nous pouvons nous rendre compte de la communication positive qui s'agrandit. Et de voir jusqu'à quel point, alors peut-être c'est difficile à croire de but en blanc, évidemment. Notre objet, c'est encore une fois, non pas de convaincre, mais du moins s'intéresser, enfin, avoir une certaine approche de cela et de voir par soi-même. Mais nous, on constate effectivement, enfin, de ceux qui s'occupent très directement de ces animaux, que les animaux auraient un détecteur ultra-sensible. Je veux dire par là que ça va bien au-delà des paroles et des actions qu'ils peuvent voir. Ça concerne directement le monde des sentiments et des pensées. Et de voir cela de près, c'est assez saisissant. Alors je ne veux pas faire la publicité d'un livre, mais il vient juste de sortir, qui retraduit en particulier la base sur laquelle, une base de connaissances qui ont été puisées à partir d'expériences concrètes avec les animaux. C'est un livre qui vient juste de sortir, je crois qu'il y a un exemplaire qui est là, disponible, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Voilà, donc nous rendons compte jour après jour que cette communication positive peut s'élargir de plus en plus. Alors, tu as parlé de télépathie, oui, nous croyons effectivement que les animaux peuvent capter nos pensées et qu'en fonction de notre comportement, et quand je dis comportement, c'est à un niveau beaucoup plus subtil, je vais parler du monde des sentiments et des pensées, les animaux peuvent vraiment réagir en fonction de cela, évidemment dans les deux sens, en fonction évidemment des émissions que nous envoyons, aussi bien dans le positif comme dans le négatif. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder qui dépasseraient de loin l'exposé que tu viens de faire, simplement pour... C'était à titre d'information, je souligne donc qu'il y a ce livre qui est via ces connaissances qui y sont, et à partir aussi des expériences concrètes que nous faisons au quotidien au sein de la Fondation Gabriel. Voilà. Eh bien, tu l'as avec toi là, oui.
Essaye de faire, c'est-à-dire vivre dans le monde. Hein, il ne s'agit pas de créer des communautés à part qui vivent en autarcie et qui, suivant un certain idéal de vie, mais s'intégrer dans le monde. Et puis on en revient toujours à ce que je disais ce matin aussi, essayer par des réalisations que l'on fait, de montrer un exemple et puis proposer des alternatives, quoi. Alors ça peut être dans tous les domaines, ça peut être avec les animaux, ça peut être avec l'éducation des enfants, ça peut être avec la vie en communauté, ça peut être l'école, ça peut être l'agriculture, ça peut être... Effectivement, comment c'est la pensée libre, c'est une organisation, il y a un système de pensée qui est très gros, avec beaucoup d'enfants, et on a tendance soit à le fuir, soit à rentrer dedans, soit à le fuir et à dire je ne veux pas aller là-dedans. S'exclut, mais il y a peut-être une troisième voie qui est d'essayer par petites touches d'avancer.
C'est le vaste problème.
Moi, je
pense plutôt à cette voie-là qui est une voie. Moi, je vais dans le Darcy, pour ne pas s'exclure,
je suis pas. Non, mais je pense à des communautés comme les Amish ou des
toiles. Ah oui, ah oui, ben là, je ne suis pas d'accord avec les
Amish. Oui, mais ça peut être une solution.
De toute façon, c'est vrai que moi, je ne crois pas. Il ne faut pas que le réformisme puisse changer le monde par des outils, c'est sûr, ça nous empêche.
Et vous ?
Est-ce que je vais profiter de l'occasion, si tu es d'accord, pour aborder un autre sujet, pas celui de ce soir, mais quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Oui, moi j'ai un projet. J'en ai déjà parlé à certains, ce serait un site internet très très général à propos du végétarisme qui regrouperait un petit peu tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur le végétarisme et d'autres choses encore, mais avec la différence qu'on s'y mettrait vraiment à fond, à la fois pour le design et à la fois pour le contenu. Et donc il faudrait réunir en question, ce serait quelque chose du genre VG pour tous, la page du végétarien moderne, et ce serait il faudrait réunir tous ceux qui s'y connaissent bien en création de site internet pour faire un truc très, très interactif, très convivial, qui fasse à la fois une page dont on puisse ensuite considérer, enfin, une page qu'un végétarien, en la voyant, pourrait considérer comme sa page d'accueil et l'utiliser, et qui pourrait aussi intéresser de nombreux non-végétariens pour se lancer dans le végétarisme. Mais vraiment faire un travail très important à ce niveau-là. Quoi. Et donc l'idée de ce site en question, ça aurait été d'abord une rubrique où il y a tout ce qui a déjà, enfin plusieurs rubriques où il y a tout ce qui a déjà été avancé à propos du végétarisme, avec les documents, des documents sur les raisons de végétariens, toutes les implications, des outils pour militants exactement comme sur Animosine, une rubrique de rencontres avec beaucoup de débats plus ou moins liés au végétarisme, parce que ce serait une page pour les végétariens, et puis une boutique où les gens pourraient acheter, les visiteurs pourraient acheter tout ce qui les intéresse. Ça pourrait aller de la nourriture à des outils ou des affiches, des livres, des tracts, etc. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, moi je pourrais participer au projet en tant que designer et éventuellement un petit peu programmeur, mais je ne suis pas très bon. C'était l'annonce.
David ?
Oui, il n'y a pas beaucoup de réactions par rapport à ce qu'a dit David. Moi, je trouve que c'est dommage, non ? Parce que. Hein ? Non, mais je veux dire que c'est bien, c'est un peu l'idée de notre but final. Alors, je pense qu'on n'a pas forcément tous le même but final, la même façon de voir les choses. Ça pose des problèmes du genre la prédation. Attends, je ne sais pas s'il y en a qui veulent re-rentrer dans le débat de la prédation. Mais je sais pas, peut-être parce que ça pose trop de choses, on voit pas très bien sur quoi accrocher, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est difficile, quoi, de séparer les questions, les interconnectés.
C'est quand même important de voir quelles sont les relations avec les animaux. Il y a la rivière, il y a des eaux fraîches, il y a un bateau que j'avais pas vu depuis longtemps et j'avais envie de c'est très rapide. Soit j'ai essayé, je n'ai pas pu parler et je trouvais qu'il y avait quelque chose, et je disais qu'il y avait une connexion entre moi, c'était aussi des animaux que je ne connaissais pas, j'en pouvais vivre, c'était pas des communes, mais c'était très beau et elle savait, il y en a qui se remettaient toujours sur les matchs d'enfance, on voyait qu'elle savait bien où se placer pour avoir un peu de fraîcheur. J'ai traité et disons que je trouve que, enfin, bon, moi j'aimerais bien parler avec les animaux. D'ailleurs, de toute façon, il y a déjà beaucoup de gens qui ont essayé. Il y a cette logicielle classique qui est avec les livres. Bon, c'est pas pour ça qu'on peut aller vivre avec eux, mais qu'au moins on soit participé d'eux. Parce que toute coupure, c'est une limitation, je sais pas, c'est dommage que c'est se mettre dans nos tours de HLM ou pas HLM ou de compagnie particulière, peu importe, mais c'est quand même, c'est les Indiens qui disaient qu'on était dans les cages, déjà nous, on se met beaucoup dans les cages. Moi j'aime pas les cages, j'aime bien sortir et participer avec la nature parce qu'on sent le vivant, on sent la vie et on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, donc on s'y fait. Et quand on s'est volontairement retiré pour vivre dans une sorte de.
Bon, pour se poser la question, est-ce qu'on a le droit de refaire le monde ?
Ben oui.
La vie universelle dit non, moi je dis oui. Qu'est-ce que vous dites?
Moi je dis oui.
Ah, mais c'est pas par rapport.
Non seulement le droit, mais le devoir. Mais seulement.
Est-ce qu'on a le droit de refaire le monde?
Ben oui, mais pouvons-nous le refaire, c'est ça le problème.
Alors, ou de refaire la création, ou comment vous
voulez. Moi je dis que non.
Mais refaire le monde, c'est en restant la durée, enfin, jaune et tout, c'est comme ça.
Il y a un livre qui, de science-fiction que j'ai lu récemment qui s'appelle je ne sais plus comment, mais de je ne sais plus quel auteur.
Hein,
ouais, c'est pas comme ça. Non, mais bon, certains reconnaîtront peut-être, ça se passe du genre en 2050, et le monde est. Disons que la biotechnologie est beaucoup évoluée et est utilisée y compris par des gens qui se réclament de l'anarchie et qui ont fait une île où tout le monde vit en anarchie et puis qui est une ville artificielle avec soutenue par des corails génétiquement modifiés qui permettent de enfin qui sont vraiment complètement modifiés de façon très précise pour permettre à cette île d'exister, pour permettre de satisfaire à tous les besoins des habitants, etc. Et où, au lieu d'avoir une attitude négative vis-à-vis des OGM, on a une attitude, enfin, que le problème se pose en termes politiques, de savoir qui est-ce qui s'approprie les OGM, qui est-ce qui a les droits de brevet là-dessus, est-ce que ça peut être une science au service du peuple, ou, enfin bon, je ne sais pas comment dire.
Comme tout petit, on peut faire des choses très bien, des choses très mal, alors que ça est dangereux.
Enfin, moi personnellement, je suis pour l'utilisation de la biotechnologie quand c'est. Oui, ça dépend qui l'utilise, y compris des OGM.
Parce que moi je sais que j'ai entendu une série de conférences l'année dernière où justement il y avait des scientifiques qui avaient parlé de biotechnologie et qui disaient déjà qu'il y avait que c'était déjà fait, qu'il y avait des mutations génétiques, c'était des gènes qui avaient été. Ajouter à des hommes pour un peu un eugénisme. Je voulais dire qu'il y avait des villes, je crois que c'était au Brésil, il y avait un endroit où des gens se réunissaient et des gens qui avaient de l'OMC, etc. et qui faisaient demander qu'on trafique les gènes de leur progéniture en gestation, c'est-à-dire en fait, de plus, etc. Et que pour que ceci soit plus intelligent. Et il y avait là-dedans une idée, qui nous l'avait dit crûment, c'était une des affaires et une personne pour l'entendre à la faculté. C'était pour améliorer ces gens et qu'on pouvait faire la même chose pour asservir les autres. Ça m'avait un peu choqué.
C'est vrai que c'est un vaste débat, c'est l'histoire de l'OGM. C'est clair, c'est peut-être le plus grand scandale de l'humanité actuellement, parce que ça s'attaque au patrimoine du monde. Le patrimoine, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que l'homme se situe vraiment, pour nous, Dieu est à la base, que l'homme se situe au-dessus de Dieu et l'affirme de plus en plus. C'est-à-dire qu'il veut améliorer la nature. Pour nous, la nature, au départ, c'est bien, quoi. On essaie de limiter du mieux qu'on peut. Je vois les Airbus qu'on fait à Toulouse, on les revêt d'une couche dont la fabrication a été inspirée des poissons pour que ça ait une meilleure fluidité dans l'air. Enfin, toutes les recherches scientifiques sont inspirées de la nature la plupart du temps. En recherche médicale, on va dans les pays, on va dans les forêts tropicales les plus reculées pour trouver pour s'inspirer de la nature et voir qu'est-ce qu'on peut faire de ça. On limite. On essaye de l'améliorer, mais on n'a jamais une attitude inverse de dire ben, la nature est là, c'est de l'accessibilité telle quoi. Il y a un refus quelque part, et il y a la volonté de l'homme de se situer au-dessus de Dieu, de la création. Donc c'est une attitude, je dirais, de base, de vente très courte, de faire en sens, c'est sûr. Je dirais que. Pour nous, le fait d'être sur Terre, c'est par de là, quoi. C'est d'avoir un refus. Mais c'est un vaste débat.
Le fait. Tu peux répéter la dernière phrase?
Le fait d'être sur Terre, c'est la chute, quoi. Ce qu'on appelle
la chute dans toutes les, dans la plupart des grandes religions, on parle de la chute, c'est-à-dire de l'éloignement de Dieu. Et à partir du moment où on s'éloigne, disons, de Dieu, de la création, quoi, on perd cette communication avec, avec notre origine. Alors comment on choisit de s'en éloigner toujours plus, ou au contraire on essaye de rétablir ce que tu parlais de communication avec les animaux? Ça passe par une acceptation. Ça passe par une acceptation du monde de qui l'on. Alors nous on veut construire un autre monde, ou au contraire, on est humble et on accepte le monde. Bon, c'est sûr qu'il a beaucoup évolué depuis son origine, mais nous on s'en éloigne et avec la génétique ça va être de pire en pire. On va mettre des gènes de plantes dans des animaux, on va mettre des gènes d'animaux dans les humains, et des gènes de végétaux dans les humains, tout ça parce qu'on refuse une situation qu'on a causée nous-mêmes, je pense. Ce qu'on veut, c'est qu'on refuse de se poser la question sur soi-même, pourquoi je suis dans cette situation-là. On regarde les conséquences, et on essaye d'améliorer les conséquences, mais on ne se pose jamais la question du pourquoi d'une situation, c'est-à-dire un regard en arrière. En médecine, c'est flagrant. Une maladie, le sida, je prends n'importe quelle maladie, mais on va prendre le sida parce que ça m'arrive, la maladie courante actuellement, on ne va pas se dire, enfin le sida ou le cancer, ou peu importe, une maladie, on va pas se dire pourquoi cette maladie est arrivée, et comment est-ce que je pourrais faire en sorte pour qu'elle ne vienne plus, mais on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour supprimer le virus qui est la cause de cette maladie? En fait, ce n'est pas le virus qui est la cause de la maladie, c'est une situation qui a fait que ce virus s'est établi. Quoi. Et c'est valable pour beaucoup de choses, pour une grippe, pour n'importe quoi. C'est le pourquoi d'abord. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est le pourquoi. Pourquoi je suis au chômage? Pourquoi je suis dans telle situation dans mon entreprise? Pourquoi j'ai un conflit avec mon patron? Pourquoi? Donc, par rapport à soi-même, plutôt que de dire c'est la faute des autres, refaire la société à chaque fois. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est une démarche complètement différente. Enfin, c'est...
On n'a pas de
soucis.
Jean-Frédéric.
Pour en revenir à la manipulation des nous pensons vraiment que si on raisonne en termes d'énergie, ça nous fait penser directement, ça peut nous faire penser directement à l'histoire de Frankenstein, c'est-à-dire à la créature qui échappe à son créateur, qui se retourne contre lui. Et bon, sans revenir, on a évoqué, je crois, pas mal le principe de causalité, bien que les physiciens matérialistes admettent sur le plan physique la loi qui dit toute action appelle une réaction. Nous étendons cette loi sur des plans plus subtils, d'autres dimensions, bon, sans revenir sur ça, mais qui se passe à travers la manipulation génétique, pour nous, est encore plus grave que ce qui se passe déjà sur le plan physique, qui est déjà assez grave en soi, dont nous ignorons véritablement toutes les interactions et implications que ça peut amener à court et surtout à long terme. Mais nous ressentons véritablement que c'est une énergie qui est guidé par un principe d'autodestruction et qui se retourne envers son créateur. Et nous craignons véritablement qu'à partir de là, en plus, à travers la manipulation génétique, peut se produire une scission de la conscience chez beaucoup d'êtres humains, c'est-à-dire que les implications que ça amènerait iraient bien au-delà du physique, d'atteindre déjà la structure de l'ADN sur le plan physique, mais bien au-delà, au niveau du psychisme, il pourrait y avoir des répercussions énormes jusqu'à annihiler toute conscience. Alors si on le ramène, sans vouloir débattre encore sur ça, si nous le ramenons à une notion pour caricaturer de bien et de mal, ça veut dire clairement qu'à partir de là, la personne se retrouve sous influence, sans le savoir, et à partir de là, tout est permis. Sa conscience est complètement annihilée, et nous pensons véritablement à ce titre-là, que la manipulation génétique peut être un grave danger pour ça.
Bon, moi, je suis pas d'accord. Hein. Bon, enfin, je suis d'accord avec à peu près rien de ce que vous dites, quoi.
Je suis d'accord.
que bon, que l'idée qu'on ne se pose pas le pourquoi des maladies, c'est quelque chose que vous affirmez, quoi. C'est faux, je veux dire, par exemple, par rapport au sida, on se pose le pourquoi de la maladie, tout le monde se pose le pourquoi de la maladie. Il y en a pour qui la réponse, c'est un virus. Alors pourquoi ce virus apparaît à un certain moment? Eh bien, il y a une réponse qui est donnée par les scientifiques d'obédience darwinienne, c'est-à-dire la plupart des biologistes aujourd'hui, qui est des mutations aléatoires, des virus préexistants chez d'autres espèces, la densité de la population humaine qui a augmenté, qui peut faire... Bon, il y a des réponses dans ces termes-là, dans des termes que vous considérez peut-être comme mécaniques, mais qui existent, qui correspondent au fait qu'on se pose la question du pourquoi des choses, simplement on y apporte une réponse différente de la vôtre, quoi. C'est pas simplement qu'on a oublié de se poser une question, c'est qu'il y a vraiment une différence d'approche des problèmes. Il suffit pas de dire ah oui, on n'y avait jamais pensé, quoi. Bon, pareil sur l'affirmation selon laquelle l'histoire des OGM, ça implique qu'on ne s'interroge pas sur ses propres actes, qui est un petit peu une affirmation qui va ensemble avec la première. Bon, moi, je veux dire, on est pratiquement tous végétariens ici, on s'est interrogé sur ses propres actes, on sait que la première chose à faire, ça a été d'arrêter de manger de la viande, ensuite d'essayer de faire que les humains changent par rapport à ça. C'est pas simplement par facilité qu'on parle d'OGM, que moi je parle d'OGM. C'est peut-être un petit peu par provocation, dans le sens que je pense pas que les OGM aujourd'hui... il n'y a aucun cas d'OGM aujourd'hui que j'aurais envie de soutenir. Enfin, je suis pas très très au courant des choses. Simplement, c'est que je pense pas que ça soit interdit à l'avenir de... faire des manipulations comme ça. Bon, les exemples de Frankenstein, les exemples... je vois pas la pertinence et je vois pas de preuve derrière ça. Je vois pas pourquoi, en faisant des OGM, on détruirait la conscience des uns et des autres. Je serais très content, par exemple, si les chats... une manipulation génétique, est-ce que les chats n'aient plus besoin de suppléments nutritionnels pour être nourris de façon... végétarienne. Actuellement, pour nourrir des chats végétariens, il faut ajouter de la taurine, par exemple. Si une manipulation génétique faisait que les chats pouvaient fabriquer leur propre taurine, comme le font toutes les espèces qui se respectent, je trouve que ça serait très bien. Ça éviterait qu'on se fatigue, ça éviterait... Bon, ça c'est un petit exemple. Si les chats avaient moins envie de s'amuser à attraper les souris, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Bon, je parle des chats parce que je connais un peu, mais bon, si les humains avaient moins et se sentaient moins l'envie systématiquement d'être en haut de l'échelle, se sentaient, enfin bon, tout un tas de trucs. Moi, je fais pas une différence en fait entre manipulation génétique et manipulation sociale, culturelle, changements sociaux. Je pense qu'à partir du moment où on fait de la politique, on essaye de faire de la politique, on essaye de faire changer les choses, faire changer le milieu dans lequel les gens naissent. Pour moi, c'est une forme de manipulation, en espérant faire naître les futurs enfants humains dans des milieux qui les rendront moins agressifs, plus altruistes, plus ouverts aux autres, moins plus sûrs d'eux-mêmes aussi, dans un certain sens, moins... dans l'insécurité, l'angoisse constante qui nous pousse peut-être à chercher à dominer les autres, à avoir des grosses bagnoles, etc. quoi. Bon, enfin, tout un tas de trucs. Bon, je ne fais pas la différence entre le génétique et le... Je ne fais pas non plus la différence entre ce qu'on appelle les manipulations génétiques qui se font aujourd'hui, qui consistent à introduire des gènes avec des techniques très précises et très dirigées, des manipulations génétiques qui ont été faites depuis des millénaires, qui ont amené à l'apparition d'animaux comme les poules, les poules pondeuses, les vaches, et qui consistent, enfin, par la sélection, par la simple sélection des éleveurs. Les uns comme les autres me paraissent bien ou mal suivant l'intention, suivant la conséquence, mais certainement pas dans la substance. Je vois pas pourquoi ça le serait, quoi. Maintenant, si on se réfère...
à une création divine à laquelle il ne faudrait pas toucher, moi je ne comprends pas où elle s'arrête, où elle commence, quoi. C'est-à-dire que dans la création divine, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de cabane, tel que c'est marqué dans la Genèse. A-t-on le droit de construire des cabanes? C'est déjà refaire la création d'une certaine façon, quoi. Alors, entre construire des cabanes et faire des manipulations génétiques, je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence de nature entre les deux. Voilà.
Je vous passe des questions, pas justement de construire des cabanes, et il faut en construire, mais à un moment donné, s'arrêter, mais enfin, ça c'est pour toute chose. Par exemple, l'homme, pour le moment, il y a, je ne sais pas combien d'espèces qui apparaissent par jour, mais c'est parce que l'homme, il n'a peut-être pas construit trop de cabanes, mais il a fait trop de choses, et le problème avec lui, c'est que quelquefois, il ne sait pas s'arrêter, et au lieu de. Il construit, puis tout en construisant, il détruit beaucoup. Donc là, il y a justement, on dirait qu'il a. Il y a un déséquilibre dans sa tête, il ne sait pas où s'arrêter. Donc il faut qu'il construise des cabanes, certes, mais pas trop. Il faut qu'il y ait une population humaine, on est à 6 milliards, alors qu'on était à je ne sais pas combien, au début du siècle, etc. Il faut qu'il fasse des enfants, mais pas trop.
Donc, d'accord pour qu'on fasse des OGM, mais pas trop.
Oui, mais il y a des choses qui sont mauvaises, mais je parle des choses qui sont bonnes. Et puis Dieu n'a pas, c'est pas lui qui a construit des cabanes. Les cabanes, c'est une positive. Mais même dans le positif, souvent l'homme il va trop loin. C'est-à-dire qu'on voit bien que les forêts ont été dévastées pour faire, par exemple, aménager telle ou telle chose, et puis que les espèces disparaissent. Donc la nature n'est pas simplement un endroit où on peut prendre des choses et détruire, même si c'est pour construire pour le bien des hommes, parfois c'est pour le mal de la terre en général. Quoi. Les OGM, bon, moi je suis contre de toute façon. Par contre, parce que rien n'est prouvé, que aussi il y a des brevets, moi ce qui me choque aussi là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de Monsanto et de compagnie qui brevettent leurs graines et après les paysans, il faut qu'ils les achètent à des prix extrêmement chers. Et on voit que le reportage à la télévision en Inde, justement, ils essaient de préserver leur équilibre de graines, etc., pour ne pas mourir de faim, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour s'acheter des graines modifiées par les uns par les autres. Donc c'est dans l'exagération moi que je me choque.
Oui, c'était juste pour faire une suggestion parce que
si le débat s'achève avant qu'il soit l'heure d'aller manger, on a ici le magnétoscope et le vidéoprojecteur et puis des cassettes sur Peter Singer, je crois, sur Spirac, éventuellement on peut voir.
Stopper un élevage industriel.
Ça dure 10 minutes. Mm-hmm. Ça intéresse les gens de voir. Et Calbook, c'est un comique américain. C'est bon. Pour ne pas trop discuter sur les OGM, simplement pour donner un dernier point de vue, je dirais que les OGM vont vous permettre d'agir sur le monde dans le sens où on veut qu'il aille. On peut faire des poulets avec 4 cuisses. Parce que le monde aime la cuisse de poulet, etc. Au niveau déjà de la matière, on peut agir. Ce qui est plus grave, un niveau au-dessus, c'est qu'on peut, parce qu'on veut que le monde devienne végétarien, je vais être un peu direct, mais on va trouver demain le gène du végétarisme. C'est un peu stupide, mais. Donc la démarche est comme ça. On va trouver le végétarisme et puis un gouvernement mondial qui est pour le végétarisme va faire une armée de végétariens. C'est-à-dire que à partir de là, celui qui a le pouvoir, la puissance de l'argent, il va pouvoir faire le monde qu'il veut. Et il va agir sur les consciences, il va supprimer même, pourquoi pas, la conscience des gens. C'est-à-dire savoir où est bien ou mal. Il va pouvoir commander le monde et faire du monde une armée de gens qui sont à ses ordres. Et c'est ça.
Un énergie, là, c'est pas bien.
c'est-à-dire ne pas respecter le libre arbitre, ne pas respecter le monde tel qu'il est et qui s'organise sur un certain ordre, parce que pour nous il y a un ordre, le minéral, on en a parlé déjà autour des choses passées, le minéral, le végétal, tout ça s'harmonise, on intervient, on désharmonise un peu tout ça, mais c'est des perceptions clés, hein, tout simplement, mais je pense qu'elle est déjà bien perçue par beaucoup de monde. Mais, on dit un petit peu d'OGM ou pas du tout, ou beaucoup. Pour nous, c'est pas du tout, parce que dès l'instant où on fait de l'OGM, ça se répand partout, ça se répand dans l'eau, ça se répand dans l'air, et on ne maîtrise plus rien. Alors, bon, il y a l'idée du docteur Moreau, bon, il y a des choses comme ça qui donnent déjà une conscience de ce que ça peut être. Tu parlais des croisements des animaux et tout ça, ça s'est fait pendant des siècles, non? C'était à un niveau un peu supérieur, enfin un peu plus léger. Mais là, on va beaucoup plus loin. Et demain, on peut très bien faire des êtres humains dont une partie de leur corps sera faite d'animal ou de végétal. On peut très bien l'imaginer. Et demain, on peut faire aussi des clones, c'est-à-dire des êtres qui, pour nous, n'ont pas d'âme. Parce qu'on croit à l'âme. Mais bon.
David Chauvet ?
Moi je voulais dire une chose, c'est que si demain KMC il propose d'écouter sans tête, j'irais manger sans problème. Non, c'est bien, c'est...
Imagine que demain on fasse des poulets sans tête et que quand on les tue, ils ne souffrent pas. Simplement par la mutagénésie. Est-ce qu'on devient consommateur de poulets ou pas? Bah, nous, végétariens. Hein,
et si on fait des hommes sans tête et qu'ils ne ressentent rien?
Non, parce que ça me rappellera l'humain.
Ah bon?
Question de...
Demain, on fait des animaux qui ne souffrent plus. Pour nous, la souffrance, elle est une valeur très importante. Cinéma, on supprime la souffrance par jour.
Mais pourquoi faire?
Mais il y a des gens qui
Moi, je ne suis pas contre l'intervention génétique a priori, je suis même plutôt pour. Hein, mais simplement, bon, évidemment, il faudrait davantage poser la question et puis la mettre. Le problème, c'est que dans les mains des hommes actuels, souvent, ils font n'importe quoi avec. Ça, c'est le problème. Mais sur le principe en soi, effectivement, il n'y a pas l'homme est sur terre, il crée des tas de choses. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas intervenir dans la question génétique. Du papier ou du métal, enfin, c'est pareil quoi. C'est sauf que c'est peut-être beaucoup plus complexe, donc il faut être prudent, voilà, c'est tout. Et puis je crois pas qu'on puisse forcément, par intervention génétique, comme c'était une blague aussi, la matière, on va pas forcément détruire les individus par ce biais-là. La conscience, c'est là, mais à un autre niveau que les questions génétiques.
Je vois déjà que la quatrième cause de mort en France, c'est les médicaments, sans parler des erreurs médicales qui sont aussi prémonitoires. Alors, donc, tous ces gens qui font des médicaments, des systèmes de gens avec des substances aussi, enfin, plus ou moins artificielles, c'est déjà une catastrophe. Alors, s'ils se trompent aussi dans les manipulations génétiques, on peut s'attendre à n'importe quoi. Bon, je ne crois pas, mais enfin bon. Donc c'est pas vrai que même s'ils sont de bonne volonté, ils fassent des choses vraiment qui valent la peine. Et c'est des choses qui peuvent se reproduire comme des épidémies. Ils ont raté un être génétique qui va se reproduire. Ça, c'est tout à fait envisageable, ça serait même tout à fait normal. Les scientifiques, leur définition, c'est quand même trial and error, essai et erreur. Quand je travaillais dans l'informatique, c'était essai et erreur aussi. Donc je veux dire que si ça a toujours été comme ça, dans l'informatique c'est pas gênant parce que c'est les ordinateurs qui en prennent un coup, mais sur l'être humain c'est un peu plus embêtant.
Un dernier truc aussi, c'est que je me disais que bon, peut-être que c'est aussi sûrement qu'avant de songer sérieusement à des modifications génétiques, bon, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire parce qu'on a l'impression aussi que. Intervenir à ce niveau-là, ça peut être une solution de facilité qui pallie la déficience des humains à vouloir faire autrement. Donc, plutôt que de changer les choses, on va essayer de faire des bidouillages pour essayer de changer les structures. Et en plus, moi, je ne suis pas du tout convaincu que ça puisse faudrait faire des études. Je ne suis pas sûr que ça puisse avoir beaucoup d'influence sur la façon de fonctionner des êtres vivants. À part des élèves, mais c'est vrai que par exemple, que les chats produisent des substances agricoles, pourquoi pas, des choses comme ça. Ça, c'est pas. Ça paraît pas dangereux, non. Au contraire.
Oui, quand on sait ce que c'est la mondialisation, je veux dire, effectivement, je crois que là, beaucoup de gens sont prêts à jouer les petits sorciers en plein, quoi. Parce que quand on voit qu'avec les moyens qu'ils ont actuellement, c'est pas vraiment l'harmonie de la planète qu'ils recherchent, mais bel et bien le pillage de toutes les ressources, quelles qu'elles soient, et à tous les niveaux, on se dit qu'avec le génie génétique, ça peut être, et la manipulation génétique, ça peut être qu'un essai d'aller encore plus loin dans ce travers et dans cette fausse route, qui est que tout simplement l'homme, il a une volonté spontanément, s'il n'est pas justement équilibré par sa compréhension intérieure, il aura automatiquement un désir de domination et de puissance. Et que cette domination et de puissance, dans la mesure où justement il aura les armes génétiques pour le faire, je ne vois pas pourquoi, mais vraiment pas pourquoi il s'en priverait. Et donc, accepter d'être dominé déjà a priori, parce que justement, qui sait ici qui va aujourd'hui lutter contre la mondialisation, et qui sait qui va s'opposer réellement à toute cette marche en avant, justement, de ces creux, de toutes ces grands groupes qui imposent au monde entier leur façon de vivre et leur façon de voir. Alors, en fait, leur donner une arme supplémentaire qui est le génie génétique, c'est tout simplement accepter d'être un peu plus dominé, un peu plus, je dirais, extérieur à sa propre vie. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement dans la mondialisation? C'est que l'homme est complètement dépersonnalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, etc. L'homme n'a plus la maîtrise de sa propre vie. Pourquoi, par exemple, au Brésil, il y a des gamins qui se font enlever le foie, la rate ou n'importe quoi, parce qu'il est pauvre et qu'il a besoin d'argent pour vivre. Résultat, il va aller dans une clinique pour qu'on lui enlève un rein ou n'importe quoi. Je veux dire, ça, c'est une réalité concrète. Et en fait, quand on parle de manipulation génétique, on renforce de toute évidence cette voie-là, et on est incapable, mais vraiment incapable, de prévoir les répercussions réelles. D'autre part, sur les OGM. Les OGM, bon, je crois que même les producteurs, ils vont vite revenir à de meilleurs sentiments à certains niveaux. Pourquoi? Parce que d'abord, les graines sont des graines, donc qui vont être imposées. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé déjà en Bretagne vis-à-vis du schéma de dépendance des agriculteurs entre la production, c'est-à-dire l'achat des graines et la consommation. De plus en plus, le producteur, c'est celui qui prend tous les risques sans aucun, en fait, contrôle du processus de production. Et là, ça fait le renforcer. Pourquoi? Parce que les OGM, bon, un, implique donc des graines ou d'autres qui vont être modifiées. Donc, tout ce qui va avec, c'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a d'OGM, plus il y a de pesticides qui sont introduits dans ce processus. Pesticides, bon, c'est bien connu quand même, détruisent toute vie et détruisent justement les animaux, les plantes et tout le processus de vie.
Appellations différentes qu'on retrouve toujours dans la plupart des civilisations passées, toujours ce vieux mythe en fait de s'emparer du feu du ciel pour le tourner avec sa volonté propre et de remodeler toute une création telle qu'on voudrait qu'elle soit. Nous pensons réellement qu'il y a eu, bon, sans rentrer dans ces considérations-là, qu'il y a eu une chute qui s'est faite, qui a abouti à l'univers manifesté matériellement, et que cet univers est le résultat de cette chute. Si on consulte les écritures védiques, il y a des parties aussi dans ces, même s'il y a des parties de vérité, évidemment, il y a parfois, entre les lignes, justement une allusion directe, si on peut dire, on peut le retranscrire comme ça, comme une dissolution. Le but visé serait ce but-là, serait la dissolution de toutes les formes de vie, à partir de laquelle on aurait une énergie, et à partir de cette énergie, remodeler une création. Je crois qu'à travers déjà ce qui s'est passé au niveau de la fission nucléaire, fusion également, et on a franchi une autre étape dans la folie totale, qui est donc de la manipulation génétique. Et je pense aussi que c'est une véritable ingérence, une violence imposée au règne animal. Quand nous voyons la pauvre brebis Dolly, ce qui s'est passé pour elle, nous nous rendons compte, à moins de rester avec les yeux fermés, pire que ça, avec le cœur fermé, pour voir que véritablement, cela est vraiment contre nature, et cela vraiment est une violence faite directement au règne animal.
Je voudrais vraiment j'exercer le sentiment enfin, de responsabilité à l'homme génétiquement modifié. Il est génétiquement modifié, est-ce qu'il est responsable? Ou alors s'il fait une bêtise quelque chose, il peut dire mais. C'est la personne qui l'a modifié qui est la responsable. Donc si un être humain perd son sentiment de responsabilité, est-ce que ce n'est pas assez dommage d'une part, parce que c'est quand même un sentiment de liberté, de force intérieure, de plus, etc. D'un autre côté, le savoir que c'est un tel qu'on peut voir peut-être encore dans la rue qui a choisi vos gènes, parce qu'il trouvait ça bien et que vous n'avez rien à dire là-dedans, c'est le gène que tu auras, ce n'est pas celui d'un autre. Je trouve qu'au point de vue de la liberté, ça me ferait jamais. Enfin, je réfléchis. Vous avez des cheveux ? Vous avez des amis ?
C'est pas vrai que. Quand je parle des OGM, c'est par volonté de. Ça renvoie au mythe de Prométhée, je veux dire, c'est pas cette volonté-là, quoi. Je veux dire, ça correspond. La sympathie que j'ai pour la possibilité à l'avenir d'utiliser les OGM ne correspond pas à une volonté prométhéenne que j'aurais, moi, de dominer le monde. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a des raisons très concrètes derrière, quoi. Il y a des raisons en termes de souffrance, il y a des raisons en termes de.
Non mais la conception, cela peut se comprendre.
Voilà, c'est
génial.
Et que je vois pas bien ce que vient faire Prométhée dans ce cas-là. Si tu dis que c'est pas moi, bon ben tu diras c'est les OGM tels qu'ils existent aujourd'hui qui correspondent au mythe de Prométhée. Bon, les OGM tels qu'ils existent aujourd'hui, je pense qu'ils correspondent principalement au fait que ça permet de faire des sous. Je veux dire, ils sont faits par des grandes boîtes. Qui ont compris qu'en faisant les OGM comme ci, comme ça, bon, d'abord, il y a un côté ludique, que c'est amusant de bâtir des trucs, et puis il y a le côté fric, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher le mythe de Prométhée. J'ai le sentiment que c'est vous qui le mythe de Prométhée, le mythe de, enfin, l'idée de prendre la place de Dieu. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de prendre la place de Dieu. De toute façon, je veux dire, on va pas. Avant que les OGM puissent servir de façon utile, tel que moi je le conçois, je serais mort depuis longtemps, quoi. Il y a de grandes chances. Et c'est pas moi qui déciderai des.
On en construit l'avenir des nos enfants.
Oui, oui. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas correspondre à une motivation diabolique de la part des gens qui aujourd'hui voudraient qu'il y ait des OGM.
Prenons l'exemple des céréaliers dont parlait Denis. Actuellement, un cultivateur qui veut produire du blé ne peut plus utiliser les semences du blé de l'année d'avant. Pourquoi ? Parce qu'on lui a donné du blé hybride, ce qu'on appelle du blé hybride, qui fait que on ne peut plus réutiliser les semences pour refaire une production l'année d'après.
C'est avant les OGM.
Oui, c'est avant les OGM. Donc maintenant, tous les cultivateurs sont complètement dépendants des céréaliers qui leur fournissent les graines, les semences pour ça. Hein. Aujourd'hui, c'est les céréaliers. Actuellement, les firmes américaines comme Monsanto et autres, qui sont des firmes qui travaillent dans la biogénétique, conçoivent, s'approprient les brevets d'abord, parce qu'elles déposent les brevets, elles s'approprient la création, donc elles déposent les brevets, elles en sont propriétaires, qui fait que demain, quand on voudra faire du blé génétique, on devra passer non plus par des céréaliers, mais on aura un train au-dessus, on devra passer par des firmes qui sont des laboratoires de recherche en OGM. Donc ça, ce sera l'étape suivante. Après, qui est-ce qui va décider de l'évolution du produit lui-même, c'est-à-dire des caractéristiques du blé qu'on va fabriquer l'année d'après, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Ce sont ces firmes-là qui disposent de fonds colossaux, qui disposent d'appuis financiers, qui ne sont pas forcément en accord avec le bonheur des êtres humains, mais qui ont pour but avant tout l'enrichissement, les profits, etc. On voit que la mondialisation, hein, qui ne va pas forcément dans le sens du bonheur des êtres humains. Voilà, c'est un exemple simplement au niveau de l'agriculture. On peut aussi le reproduire au niveau des entreprises où on a besoin d'employés dociles. Et on voit bien actuellement déjà qu'on dispose des gens comme on veut, au niveau des salaires, au niveau de tout. Et demain, pourquoi pas concevoir, je dirais une race d'hommes, mais concevoir des caractéristiques humaines qui vont dans le sens de quelques grands groupes mondiaux qui dirigent tout. Et on voit que la mondialisation, il y a quoi ? Il y a une dizaine, une centaine de sociétés qui dirigent le monde et qui pilotent tout. Je ne vais pas être magnifique théorique, mais vas-y.
Le truc que je ne comprends pas dans votre discours, c'est que vous êtes contre le fait qu'on fasse des OGM. Parce que vous dites, si on peut faire des OGM, on va faire ceci, faire cela, qui vont être pas bien. Aujourd'hui, physiquement, on sait faire des OGM. Donc, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière là-dessus, quoi. Je veux dire, donc, s'il est décidé de ne pas faire d'OGM, du tout... Oui, mais si ce que vous préconisez était accepté, ça serait en fonction de principes éthiques. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que ces principes éthiques soient différents et que ces principes éthiques disent on peut faire des OGM, mais de certaines façons et pas d'autres façons. C'est-à-dire, on peut faire des OGM, mais par exemple, on n'a pas le droit de faire des OGM pour créer des êtres humains plus dociles pour les usines de... Je veux dire que je suis tout à fait d'accord qu'il y a énormément d'utilisation des OGM qui peuvent être extrêmement nocives. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut en avoir assez rapidement. Le caractère nocif des utilisations d'OGM d'aujourd'hui, tout ce qu'on me cite à ce propos vient pratiquement toujours de questions de structure industrielle et politique et pas de la réalité des OGM eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vrai ce que tu dis par rapport aux semences, mais d'ailleurs ça c'était vrai avant les OGM, mais le monopole de grands groupes sur la production de semences, bon, ben, c'est un problème politique qui fait que les paysans sont sous la domination de grands groupes, mais ça n'a rien à voir avec la question précise des OGM. Les OGM peuvent accentuer ça, mais je pense qu'il faut des luttes dans ces secteurs-là, indépendamment d'une lutte contre les OGM en général. Et c'est vrai pour toute la série des choses qu'on dit contre les OGM, quoi. Alors je vois pas pourquoi il pourrait pas y avoir des OGM bénéfiques à terme. En plus, je pense que quand on connaît un petit peu ce que c'est que les OGM à un niveau biologique, on se rend compte à quel point c'est quelque chose de banal, quoi. La technique pour créer...
Ah oui, c'est tout simple. C'est une paire de ciseaux, d'accord, quoi.
Non, mais c'est surtout c'est faire une modification génétique, mais des modifications génétiques, elles sont vraiment quotidiennes et totalement aléatoires, c'est-à-dire sans aucune volonté particulière pour qu'elles aillent dans un sens plutôt que dans un autre. Ça, on le sait, je veux dire que même si on croit qu'il y a un sens dans l'univers, les expériences qui existent où on prend des mouches et on les soumet à des rayonnements... Et on montre que les mutations qui se produisent, elles sont aléatoires. Et dans la nature, tous les jours, il y a des mutations dans tous les sens aléatoires. Les OGM ne sont jamais que des mutations supplémentaires et dirigées.
Oui, la différence, c'est que plus aléatoire, la plus aléatoire. Et ça dit que, en fait, il y a d'un côté une intervention, on va dire, aléatoire, pour nous être aléatoire, et d'autre, c'est une intervention humaine.
Voilà, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire voilà. Que... c'est un même objet, c'est-à-dire une même modification génétique, si elle arrivait de façon aléatoire, ou vous diriez peut-être naturelle, elle serait bonne. Et si elle arrive de façon dirigée, humainement dirigée, elle serait mauvaise. Il y a des conceptions dans cette histoire des OGM qui sont complètement aberrantes. Quand on dit on va mettre un gène de poisson chez les êtres humains ou chez un animal, et c'est pas un gène de poisson qu'on met, c'est une copie. C'est-à-dire c'est une simple séquence de base dans le gène. C'est une séquence qui aurait pu très bien se produire de façon naturelle sans qu'il y ait aucun rapport avec le poisson. Simplement, on s'est inspiré du poisson pour savoir quelle était, ou pour essayer de deviner quelle était la séquence de gènes qui permettrait au blé de résister à des températures très basses ou des trucs comme ça. Mais c'est pas un bout de poisson, ça veut pas dire que le blé en question va devenir plus du poisson, quoi.
Sans vouloir polémiquer à partir de conceptions différentes, simplement pour illustrer un petit peu la logique qui nous appartient, hein, à partir de nos propres conceptions, nous considérons d'ailleurs, bon, c'est toi Denis qui avait évoqué la dernière fois les travaux de certains scientifiques, ou avec David Bohm, ou il y en a plein d'autres, hein, qui ont à notre avis une grande ouverture. Et si on part du principe, du postulat que toute vie est énergie et qu'à partir de là toute énergie est conscience, et que cette conscience se réfère à... Alors effectivement, on peut avoir une approche en fonction des conceptions qui nous habitent les uns et les autres, mais nous considérons qu'à partir de là, toute conscience suit un ordre entre guillemets naturel des choses. Et qu'à partir de là, si je te rejoins et je peux te comprendre à partir de ta conception, David, d'intervenir à travers la manipulation génétique pour, pourquoi pas, soulager, voir des animaux malades, voir des êtres malades. Mais le problème, c'est que nous partons du principe que lorsqu'il y a maladie, lorsqu'elle soit à partir de l'être humain, mais aussi au niveau de l'animal, c'est plus complexe, parce que nous pensons d'abord que l'être humain... par le fait qu'il ne veut pas reconnaître les causes profondes qui l'amènent à avoir des troubles de la santé, on arrive aussi, là j'implique la dimension physique et psychique, et même au-delà de cela, sans parler directement de l'âme que tu as évoqué, André. Mais le problème, c'est qu'avec les animaux, nous pensons, le livre d'ailleurs dont on a fait mention le décrit assez dans les détails, qu'il y a eu au cours du temps des implantations de programmes, on peut dire, négatifs, des êtres humains qui se sont projetés sur les animaux. Et tout le problème est là. Donc, ça serait à l'être humain d'effectuer, on l'a un petit peu évoqué, cette mise en ordre pour pouvoir réinverser, si on peut dire, le courant, pour que le négatif se transforme en positif. Nous, c'est ce que nous croyons. Mais nous pouvons comprendre aussi, à partir de la conception qui est propre à chacun, effectivement, ce que tu dis a sa logique, comme nous pouvons l'avoir. Simplement, l'objet de, d'être ici, d'en parler, c'est bien de pouvoir en parler ouvertement, mais je pense que ça, ça n'amènerait à rien d'engager, de nous engager sur un terrain de la polémique, simplement. Simplement pour, justement, je redis ce postulat, en fait, nous partons de, du principe que toute vie est énergie, et toute énergie est conscience, et qu'à partir de là, chaque conscience, et ça part déjà au niveau, nous considérons que le minéral, malgré ce qui peut être perceptible au niveau de nos sens physiques, au-delà de sa dimension physique, a un rayonnement, et qu'à partir de là, ce rayonnement est conscience. Et donc, effectivement, nous pouvons, lorsque par exemple il y a des grands déplacements de terre, inconsidérés pour par exemple bâtir des buildings, des gratte-ciel, c'est déjà une ingérence dans cet ordre naturel.
Je ne vais pas tellement intervenir, mais parce que j'ai du mal à intervenir dans ce débat, je trouve un peu chiant pour les gens. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat en fait, que ça glisse entre les mains. Il y a des phrases que je ne comprends pas, par exemple, des phrases qui sont complètement. Qui me semblent assez innocentes, sur le plus grand, sur les grandes cases, l'homme n'a plus la maîtrise de sa propre vie, ou tout comme ça, c'est comme l'homme a marché sur la lune, je sais pas, les cases, là, l'homme, machin, tout ça, ça rejoint la dichotomie, le naturalisme, d'un côté l'espèce humaine, le caca, et la nature, tout ça. Et là en fait, tout ça, où ça m'ennuie, c'est ce débat ce soir, c'est que soit on se place sur le terrain à deux niveaux, soit on se place sur le terrain des arguments. Alors quand ça arrange, quoi, c'est-à-dire que quand on va être contre les OGM, on va parler des trucs de semences, de la contrôle, des grands groupes, blablabla. Donc ça, comme ça, on peut retirer les OGM. Et puis quand on commence à avoir des contre-arguments sur ce point-là ou sur d'autres points, on sort les grands principes de religion et du truc insondable, en fait. C'est-à-dire que bon, ben, peut-être là, effectivement, il y a des maladies, là, mais il faut aller chercher plus loin, il y a une raison, tout ça. Donc, au bout du compte, je ne sais pas tellement où il peut être le débat, parce que quand on est à court d'arguments, ben, on sort la carte énergie, conscience, et être de lumière, et tout ça, et tous les grands tours, et puis... Ben finalement, on a un a priori au départ, on a des cases. Il y a la case Satan avec les grands groupes multinationaux, la contre-nature, les médicaments, les États-Unis, les scientifiques, les OGM, etc., etc., les labos pharmaceutiques. Donc ça, bon, on sait bien que ça, c'est dans la case. J'arrive à la faire moi-même assez facilement, cette case voilà, rejeter. Et puis une fois qu'on a cet a priori, ben on va aller chercher à droite à gauche ce qui pourrait faire correspondre le discours, en fait. Et donc je crois qu'à un moment donné, il y a presque plus de débat là, j'ai l'impression. Il y a des soubassements qui bloquent, quoi. C'est-à-dire que soit on parle de d'arguments pragmatiques, soit il y a un truc qu'on n'arrivera pas à dépasser. On n'arrive pas à tourner en rond. Je ne sais pas si c'est super intéressant. Donc pour sortir de ça, me réagir au thème en général, sur la truc de la cohabitation, souvent on parle d'animaux, on fait des cases aussi, quoi, comme s'il y avait d'un côté... l'espèce humaine, à côté des animaux qui sont libres et sauvages, mais en fait, les animaux qui sont libres et sauvages, ils forment pas un groupe qui a les mêmes intérêts, quoi. À l'intérieur, ben, il y a plein de choses. Alors bon, voilà, la prédation, c'était partie de l'insondable. Donc on peut pas tellement en parler non plus. Sur l'histoire du partage du territoire, alors il y a des choses qui sont intéressantes, c'est Il y a la question du droit de tuer, ou laisser vivre, et puis il y a la question du droit de faire naître ou pas de faire naître. Et par exemple, nous, quand on, par rapport au végétarisme et tout ça, on ne dit pas, en fait, c'est pas, j'emprunte une idée de quelqu'un d'autre, mais c'est pas tellement le fait de ne pas tuer les animaux quand on parle de végétarisme, c'est surtout pas faire naître ceux qui sont dans les élevages. Il y a donc, par exemple, une pétition sur les loups qui est passée aussi. Bon, c'est clair qu'on n'a pas de solution, mais on a un peu plus de pragmatisme à trouver.
Est-ce que vous avez
d'autres
dégâts, ils disent pas que la place de la prison est très populaire, que ça passe souvent,
on va arrêter.
Ouais.